en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 18 février 2013, Jean-Louis Beffa, président d'honneur de Saint-Gobain, est venu prononcer une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Son intervention a pour titre « Peut-on sauver l'industrie française ?» Retrouvons-le en séance.
Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, je voudrais d'abord bien sûr vous remercier très vivement de me permettre de présenter une communication sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. En effet, le titre c'est « Peut-on sauver l'industrie française ?» Plus modestement, je vais m'efforcer de définir des conditions qui, à mes yeux, seraient celles qui permettraient d'amorcer un redressement productif français, pour adopter un thème à la mode. Bon, il est évident que le constat sur le recul économique français est clair. Je voudrais tout de même rappeler le chiffre qui me paraît le plus important si l'on veut prendre la mesure du décrochage français. La balance commerciale, encore positive à la fin des années 90, accuse aujourd'hui un déficit de plus de 67 milliards d'euros. Tous les indicateurs montrent que la France n'a cessé depuis une décennie de perdre des places dans la compétition mondiale entre États via leurs entreprises, en particulier dans la part française dans les exportations. Il est vrai que la France n'est pas la seule. La Grande-Bretagne, par exemple, a suivi la même trajectoire. Mais je crois que le problème français est particulièrement durable et profond. Puisque ma communication concerne le redressement productif, je vais donc concentrer mon analyse sur l'industrie et sur le déficit extérieur, c'est-à-dire sur la perte de compétitivité de la France. La France a bien sûr d'autres problèmes majeurs, tels que le chômage, mais la solution passe dans ce cas, pour l'essentiel, me semble-t-il, par le développement des services, tâche peut-être plus facile et plus à la portée de notre pays. La perte de vitesse industrielle, en effet, ne peut que frapper l'observateur. La part de l'industrie, nous le savons, dans la richesse produite a diminué de 30% et l'emploi industriel de 20%, mais la part de la France dans les exportations mondiales a surtout considérablement décru. La France, d'une certaine façon, a ces dernières décennies, renoncé à une ambition industrielle tout en perdant un peu de son goût pour la science. Sur les 46 conseils interministériels de la première année du septennat de Georges Pompidou, 25 conseils furent consacrés à l'industrie. Combien aujourd'hui ? En 2000, la France comptait 135 000 entreprises exportatrices. Aujourd'hui, moins de 119 000. Alors, je voudrais d'abord faire observer, car ceci est peu reconnu et finalement peu décrit, que le problème n'est pas celui de toute l'industrie. Il existe en effet un pan important de l'industrie française qui, lui, réussit à tirer profit de la mondialisation des économies. Il est en effet essentiel de distinguer les entreprises qui exercent un métier mondial, comme par exemple dans les biens d'équipement, les logiciels, dans lesquels elles sont en concurrence avec des entreprises produisant sur toute la planète, et celles qui exercent un métier régional, qui ne sont, elles, en concurrence qu'avec des entreprises comme elles, dans un rayon géographique extrêmement proche, le ciment, la laine de verre. Pourquoi ? Parce que ces entreprises sont protégées de la concurrence des pays émergents, qui est le nouveau facteur le plus important, par le coût du transport. Au contraire, ces entreprises-là, dont les marchés sont largement abrités de la concurrence mondiale, puisqu'elles ne s'exercent que région par région, comme des fleurons de l'industrie française, Lafarge, l'Air Liquide, Saint-Gobain, GDF Suez, ont eux su se donner une dimension internationale à partir de leur base française. Donc, le vrai problème français est à chercher seulement du côté des entreprises qui se trouvent directement confrontés, de par la nature de leur métier, à la concurrence mondiale. Et là, les exemples de recul se multiplient. L'industrie automobile nationale apparaît évidemment comme le cas le plus frappant, nous le savons tous par rapport aux résultats de l'industrie allemande, mais bien au-delà de l'automobile, même les grandes réalisations industrielles, issu de l'effort exceptionnel fait de 1965 à 1981, sont aussi à la peine. Dans le secteur des transports ferroviaires, la concurrence fait de plus en plus rage et nos positions se fragilisent. La percée chinoise dans le domaine des trains à grande vitesse en est la dernière illustration. Même l'excellence nationale dans l'énergie nucléaire fait maintenant face à une importante remise en cause, que n'accentue qu'un peu plus les annonces, par exemple, de reports et de surcoûts dans la construction de la centrale de Flamanville, qui tranche avec l'absolu respect chinois des délais de construction du même type d'usine, l'EPR. Nos compétences, même dans les grands programmes, sont donc actuellement en danger. Certes, il est encore possible de compter sur les performances d'une bonne part de notre industrie agroalimentaire exportatrice ou sur les réussites de l'aéronautique. Mais nos domaines d'excellence industrielle à l'exportation se réduisent comme peau de chagrin. Cette situation, marquée donc par la faiblesse de notre industrie à métier mondial, accompagnée à cette force de nos positions dans les métiers régionaux, s'accompagne d'un phénomène de nature davantage politique. Le désintérêt croissant de bon nombre de nos grandes entreprises, celles essentiellement à métier régional pour leur pays d'origine. La France ne représente plus qu'une part de plus en plus faible du chiffre d'affaires de ces grands groupes qui réussissent au-delà des frontières. On constate ainsi un divorce croissant entre les préoccupations et les investissements de ces grandes entreprises et l'intérêt national. Ces groupes qui sont les plus solides ont les yeux tournés vers les pays émergents. De l'autre côté, les hommes politiques, les pouvoirs publics concentrent leur action sur les sociétés les plus ancrées territorialement, les PME, en raison notamment de la proximité politique liée au scrutin d'arrondissement. Elles en escomptent un sursaut de l'emploi, mais elles ne se rendent pas compte que ce n'est pas décisif. La majorité des exportations sont en effet de loin le fait des grandes entreprises et des plus solides des entreprises de taille intermédiaire. En tout cas, qu'il s'agisse des petites et moyennes entreprises, qu'il s'agisse des plus grandes, l'industrie exportatrice doit être le premier levier d'un redressement productif. Il ne faudrait pas faire l'impasse aussi sur l'une des composantes essentielles de la compétitivité. Je veux parler de l'énergie. Notre époque est celle de l'énergie chère, et sans doute elle le restera. Et la réévaluation à la hausse des ressources, grâce notamment aux découvertes en gaz et pétrole dits non conventionnels, n'a pas été suivie par une chute significative des prix, excepté pour le gaz aux États-Unis, compte tenu de l'importance de la croissance de la demande mondiale. L'énergie est l'un des tout premiers terrains de la compétition mondiale. L'Europe et la France sont en train de perdre cette compétition pour plusieurs raisons. La première raison tient d'abord à l'approche de la Commission européenne. L'énergie se situe pourtant par excellence au cœur de la construction européenne. Il en est ainsi depuis la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. À l'origine de ce projet figurait un double objectif, garantir la sécurité d'approvisionnement des économies européennes en plein redressement, ainsi qu'une énergie compétitive. Or, aujourd'hui, l'Europe envisage tout autrement les questions énergétiques. La Commission européenne se focalise, en fait, sur deux choses. La lutte contre le réchauffement climatique et la mise en place d'un marché européen hyper concurrentiel. Le résultat aujourd'hui est peu convaincant. Une énergie toujours plus chère, combinée à un retour du charbon en Europe, énergie fossile la plus polluante, et ce en dépit des objectifs affichés de lutte contre le réchauffement. Il conviendrait au contraire de réorienter nos politiques tant européennes que nationales, en privilégiant une énergie dont l'approvisionnement soit sûr et qui soit vendue à l'industrie, particulièrement celle électro-intensive, au plus bas prix possible. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas, par exemple, en France. Un autre exemple, l'impossibilité d'un débat apaisé et rationnel sur le potentiel des gaz de schiste ou des huiles de schiste en France. Dans le pays des Lumières, c'est à mes yeux le retour à un obscurantisme que je pensais ne jamais revoir. Lorsqu'on sait que sans tenir compte de la facture énergétique, notre déficit ne serait que de 15,3 milliards d'euros et non pas de près de 70 milliards, on ne peut considérer cette attitude comme anecdotique ou secondaire. Les positions idéologiques dans ce domaine ne s'arrêtent pas là en matière énergétique. Les énergies renouvelables sont par exemple un grand mythe dont certains éléments sont trop ignorés. C'est à mes yeux le second obscurantisme énergétique français et européen. Ils présentent en effet des inconvénients majeurs passés sous silence. Leur coût doit en effet être compensé par des subsides qui renchérissent considérablement le prix de l'énergie. Et surtout, ces énergies ne permettent par nature qu'une production intermittente et nécessitent par conséquent un système très onéreux, dont on parle peu, de capacité de soutien en cas d'absence de vent ou de soleil. Elles entraînent enfin des problèmes de stockage qu'il est impossible pour le moment de vraiment résoudre. Il y a donc, vous le voyez, des actions essentielles à mener dans le domaine de l'énergie. Toutefois, la solution au mal français passe surtout par une politique industrielle efficace, s'attachant principalement aux grandes et moyennes entreprises exportatrices à métier mondial, avec un but, faire à nouveau concorder intérêt industriel et intérêt national. Quelle politique faudrait-il alors mener? Avant de revenir à quelques propositions, il me paraît nécessaire de porter notre regard au-delà de nos frontières pour repérer quelle compétitivité ont, eux, réussi à bâtir les vainqueurs de la mondialisation et quels sont les défis, y compris des défis tout nouveaux, qui nous adressent. Il s'agit donc de prendre acte d'abord du nouvel environnement économique mondial. La concurrence ne prend plus la forme d'une compétition entre entreprises, se conformant à des règles du jeu comparables. La concurrence est dorénavant celle entre États, avec les règles propres à chaque État, qui rivalisent entre eux par l'intermédiaire de leurs champions nationaux. Depuis l'ouverture des mondes communistes à la mondialisation, le monde d'hier, celui entre pays de l'OCDE sous leadership libéral anglo-saxon m'apparaît révolu. L'extension de l'économie de marché aux pays anciennement communistes a fait apparaître de nouveaux acteurs capables d'associer au bas coût les acquis des systèmes de formation, il faut bien le dire, efficaces, qui existaient à l'époque de l'ère communiste. Les nouveaux ouvriers venant de ces pays-là ont des salaires qui sont 20% des salaires français ou américains quand il s'agit d'Europe de l'Est, 5% ou peut-être même à la limite 7% aujourd'hui pour la Chine, ce qui ne change pas l'ordre de grandeur, 25% pour des ingénieurs. Quand on dépense 1 euro, on a 4 fois plus de recherche de la même qualité si elle est faite en Chine que si elle est faite dans le monde occidental. Par conséquent, ces nouveaux entrants du capitalisme nous posent des défis inédits. Le premier, le plus récent, le plus durable, est évidemment le défi chinois, qu'il est difficile de résumer en quelques mots. Sa force est qu'il est tous azimuts. Le premier avantage à la puissance chinoise est de réussir à coupler continuité et vitesse d'adaptation. Il profite en fait d'une grande stabilité politique, comme le montre le récent renouvellement de ses dirigeants. Mais cette stabilité n'est pas conservatisme. Elle ne l'a pas empêché jusqu'à présent de s'adapter rapidement aux nouveaux défis, aussi bien énergétiques que militaires, sociaux ou monétaires. Et les solutions trouvées ne sont pas des palliatifs. Le deuxième grand avantage chinois tient à son système économique dual. D'un côté, la puissance publique, qui se concentre sur les grands programmes, comme dans la défense, les télécommunications, l'énergie, le transport en grande vitesse, avec des sociétés publiques dont il faut savoir qu'elles sont de plus en plus efficaces, innovantes et mondialisée. De l'autre, un secteur privé extrêmement actif, tourné vers les secteurs non stratégiques. La concurrence chinoise forme donc un défi auquel il est difficile de répondre, car il allie à la fois la quantité, effet de masse démographique, taille du marché intérieur, plus de la moitié du marché mondial dans de nombreux domaines, montant des investissements et maintenant recherche systématique de l'innovation et de la qualité. L'économie chinoise, quasiment dans son ensemble, poursuit une stratégie d'une rapidité encore jamais vue de montée de gamme technologique. L'industrie chinoise assure ainsi déjà le leadership mondial dans les centraux téléphoniques avec Huawei, dans l'énergie nouvelle, en particulier solaire et éolienne, et dans bien d'autres domaines. Un mot de l'Inde, car on se compare souvent l'Inde à la Chine. Or, à mes yeux, à côté de la puissance chinoise, le défi indien fait pile pâle figure, sauf dans les services informatiques. La croissance demeure relativement limitée et le potentiel économique sous-exploité. L'État démocratique, malheureusement parfois et souvent inefficace et pas mal corrompu, ne parvient pas à résoudre les faiblesses structurelles du pays. Le manque de développement des transports, l'inefficacité de l'approvisionnement énergétique entrave le commerce extérieur indien, qui désormais est limité par son déficit commercial. Enfin, l'Inde n'a pas su faire correspondre à son profil démographique, son modèle économique. Les succès indiens donnent l'image d'Isola, talentueux, dans une situation encore de grande pauvreté. La Corée du Sud connaît au contraire un plein succès. Les résultats coréens dans des secteurs comme l'industrie navale, l'électronique, la construction automobile donnent une idée de l'efficacité du modèle coréen, un pays dont la population est à peu près celle de la France. Il conjugue d'abord la sophistication de la gestion occidentale avec une connaissance des marchés internationaux plus approfondie et une courbe d'expérience plus longue que le concurrent chinois. Enfin, un mode de gestion plus moderne et plus efficace que celui-ci. Le modèle coréen associe, à mes yeux, le meilleur de l'économie chinoise et de l'économie japonaise. Il met en commun l'ardeur à la tâche, la culture de la compétitivité des coûts et la réactivité chinoise, d'un côté, la culture de l'innovation nippone et la priorité attribuée au long terme de l'autre. C'est pour cette raison que les conglomérats coréens, les chaebol, sont aujourd'hui parmi les firmes les plus performantes du monde. Ces entreprises comme Samsung, Hyundai ou Daewoo totalisent environ 60% à elles seules du PIB coréen. Face à ces succès coréens et chinois, ne sous-estimons pas la concurrence japonaise et sa faculté de rebond. Le modèle japonais est original, en ce que le rôle de l'État se limite à créer les conditions du fonctionnement adéquat de l'économie en déléguant le premier rang aux grandes entreprises. Malgré son échec visible dans le secteur de l'électronique grand public, le Japon occupe toujours des positions technologiques quasi inexpugnables dans de nombreux autres secteurs. Misant sur le sens du sacrifice et de la solidarité toujours vigoureux des citoyens japonais, comme l'ont montré les réactions à la catastrophe de Fukushima, le Japon sait s'adapter. Pour preuve, la révolution en cours par le nouveau Premier ministre de la politique monétaire ou le durcissement de son discours militaire face à la menace chinoise. Enfin, bien sûr, la grande concurrence à laquelle l'Europe et la France restent confrontées est celle des États-Unis. Le redressement économique est amorcé depuis peu. On peut que admirer sa rapidité dans le secteur énergétique. Les leviers profonds restent inchangés. Recours à l'immigration, foi dans le progrès et la technologie, exploitation de l'espace et du sous-sol. La réindustrialisation qu'autorise la nouvelle donne énergétique américaine a toutefois toutes les chances de n'être que partielle, car les États-Unis continuent et continueront à faire le choix des services et non de l'industrie en priorité. Ils ne semblent pas non plus prêts à lutter contre leurs défauts les plus profonds, le déficit commercial et l'ampleur des inégalités. Au fond, les États-Unis sont en train d'accepter une situation de leadership mondial partagée avec la Chine, avec un point commun, pour les deux, l'Europe et la France, deviennent des acteurs secondaires de la donne mondiale. De ce tour d'horizon des nouvelles concurrences, de ceux qui réussissent, de ceux qui gagnent dans cette donne mondiale, il est concrètement possible de dégager quelques leçons de réussite. Dans tous les pays qui gagnent, le rôle de l'État stratège est primordial. Une balance positive des échanges est une priorité. Une énergie compétitive est une nécessité. Une vision de long terme, une politique d'innovation, une forme de consensus social et une place forte réservée à l'industrie sont des conditions de croissance indispensables. Comment donc la France pourrait-elle parvenir à s'insérer dans ce nouveau contexte et à y retrouver une place? Une Europe efficace et définitivement sortie de crise est nécessaire au redressement français, même si elle n'est pas suffisante. Les mesures heureusement prises par la Banque centrale européenne et les récentes annonces de la Grande-Bretagne quant à la poursuite de son destin européen dessinent l'esquisse d'un chemin. L'Europe qui se dégage dès à présent est une Europe à deux vitesses. D'une part, l'Europe des échanges et des frontières ouvertes. De l'autre, l'euro-Europe. Cette dernière, centrée sur le duo franco-allemand intégrant l'Italie, l'Espagne et bientôt la Pologne, doit évidemment approfondir son rapprochement. Or, les institutions actuelles ne sont pas adaptées à cette évolution et à l'apparition de cette double Europe. Pour n'en citer que deux, les politiques de la concurrence ou de l'énergie, par exemple, doivent être complètement repensées. Il m'apparaît qu'une convergence franco-allemande est dans les intérêts de chacun. L'Allemagne ne peut évoluer durablement avec à ses côtés une France durablement en crise. Elle ne peut gagner dans la compétition mondiale sans une monnaie européenne stable. C'est pour ça que dans le grand débat qui va continuer à exister avec l'Allemagne, la France n'est pas aussi mal passée qu'on pourrait le croire. L'Allemagne fera des sacrifices pour garder l'euro. Au fond, cette négociation est pour la France une occasion de réformes supplémentaires. Je l'ai dit, l'objectif de restauration de notre balance des paiements doit être la clé de voûte de toute notre politique économique. Il est possible, bien sûr, de jouer sur deux formes de compétitivité. La première, la plus souvent citée, la compétitivité dite coût, c'est-à-dire que la France a des coûts trop élevés. Elle ne doit être négligée. Il y aurait, bien sûr, tout à gagner à supprimer une anomalie française, la part excessive des charges sociales pesant sur les salaires. L'instauration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi va dans le bon sens, même si, à mes yeux, la base choisie, la masse salariale, aide surtout les entreprises de services. Il aurait bien mieux fallu retenir les immobilisations comme base pour soutenir vraiment l'industrie. Mais contrairement à ce qu'il est dit parfois trop souvent, la compétitivité coût n'est pas, à mes yeux, l'essentiel, et la réduire ne suffira pas. Il convient de l'accompagner, et c'est là l'essentiel de la tâche, d'une compétitivité hors coût. Et ce n'est pas la seule tâche des entreprises. L'État a aussi un rôle essentiel à jouer. Et pour cela, l'État peut agir sans nécessairement mener une politique dispendieuse. Je l'ai dit, bien entendu, il faudra redresser l'emploi. La croissance des emplois viendra principalement des PME et des services. L'État a encore fort à faire à alléger les procédures et libérer l'esprit d'entreprendre. Mais ce n'est pas seulement ça, la relance industrielle. À mes yeux, la nouvelle politique de rupture à conduire en la matière doit porter sur trois points qui relèvent de l'État. Les relations sociales, car l'État en France y joue un rôle essentiel, l'innovation et la gouvernance des entreprises. Tout d'abord, dans une situation de sacrifice, le dialogue social doit retrouver un nouvel élan. Les économies aujourd'hui prospères prennent place dans des sociétés du consensus. Même si ce n'est pas inscrit dans son histoire suffisamment, la France doit acquérir à nouveau une culture du dialogue et de l'effort partagé. Par exemple, il est positif de faire enfin siéger au conseil d'administration des entreprises des représentants des salariés, comme vient de le proposer le gouvernement. Mais je pense pour ma part qu'il aurait été utile aussi, quoiqu'en France peut-être surprenant, d'y faire siéger des représentants désignés par les confédérations syndicales. Ces représentants participeraient ainsi à la stratégie de l'entreprise, comme je le vois en Allemagne dans les conseils auxquels je participe, pour les syndicats de branche. Et le rôle, par exemple, du vice-président de Siemens, le patron de l'IG Metall, c'est-à-dire du syndicat sidérurgique, dans la stratégie de l'entreprise est, croyez-le bien, fondamental. Il permet ainsi de dégager les conditions d'un partage des efforts à consentir. Les syndicats contribuant à la compétitivité de l'entreprise et en échange, l'entreprise contribuant à faire son maximum pour maintenir des emplois sur le sol national, dans le cas particulier sur le sol allemand. En France, il n'est pas trop tard pour s'engager dans cette voie. Le deuxième chemin du redressement économique revient à améliorer la politique de soutien à l'innovation. Le crédit impôt recherche est un acquis indéniable et le sanctuariser était à l'évidence utile. Mais l'argent public doit aller encore davantage vers les secteurs exposés, se tourner vers l'exportation dans des logiques de partenariat associant les centres de recherche publics, les PME, les grands et moyens groupes exportateurs français. Permettez-moi de redire là encore la politique qui était celle de l'Agence de l'innovation industrielle. La troisième action à mener correspond à la réforme de la gouvernance de nos entreprises, car il faut favoriser un actionnariat de long terme. Les entreprises ont besoin par-dessus tout de mener leur stratégie dans un cadre actionnarial stable et non pas déstabilisé par la spéculation. Les leviers de réforme sont en fait assez simples. L'attribution de droits de vote double après un certain durée de détention, une plus forte taxation des plus-values de cession après une courte durée de détention pour décourager l'actionnariat opportuniste ou volatile, la protection contre les OPA hostiles et les contrôles rampants. Toutes ces mesures peuvent être mises en œuvre dans le respect des réglementations européennes. Enfin, la France doit, comme je l'ai dit, résoudre ses problèmes énergétiques et les solutions sont connues. Il reste simplement à avoir le courage de les mettre en œuvre. Le soutien à la filière nucléaire doit être réaffirmé et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les débats que l'Académie a eus sur ce sujet et bien entendu je soutiens tout à fait les conclusions qui ont été celles de l'Académie. Nos champions nationaux souffrent des nouvelles concurrences coréennes et chinoises. Le nucléaire qui permet une électricité bon marché demeure l'un de nos derniers avantages compétitifs. Il faut aussi autoriser, non pas l'exploitation, mais des missions d'exploration du potentiel français en ce qui concerne surtout les huiles de schiste. C'est un autre axe nécessaire de politique énergétique. Enfin, dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'importance du levier de l'efficacité énergétique doit être reconsidérée. La France détient dans ce domaine industriel des atouts. Je ne voudrais pas citer que Saint-Gobain, mais Saint-Gobain a des compétences, me semble-t-il, dans ce domaine. Enfin, la politique des énergies renouvelables est évidemment à réviser en privilégiant, par exemple, des énergies moins onéreuses comme l'éolien terrestre ou la biomasse. En conclusion, à mes yeux, la France doit choisir sans attendre un capitalisme adapté au contexte mondial, respectueux à la fois de l'intérêt de l'actionnaire mais aussi de l'intérêt national. Les entreprises sont devenues le fer de lance de la compétition entre États. Les réformes nécessaires doivent s'inscrire dans un horizon de moyen terme qui ne se contente pas d'un retour précipité et étouffant aux équilibres budgétaires. Le véritable enjeu du renouveau tient bien davantage à la conclusion d'un pacte productif national. Le nouveau monde, issu de la mondialisation, est celui de la concurrence entre les États qui œuvrent à partir d'un modèle du capitalisme qu'ils choisissent d'appliquer. Ces choix institutionnels conditionnent alors les stratégies et la performance de leurs champions nationaux qui mettent en œuvre à l'exportation, là où se joue la compétition entre États, l'avantage compétitif de leur pays. Pour mener à bien un redressement productif, c'est donc de ce changement institutionnel que la France a besoin de façon urgente à l'État d'agir.
Vous venez d'entendre Jean-Louis Beffa, président d'honneur de Saint-Gobain, qui était venu à l'Académie des sciences morales et politiques le 18 février 2013 pour prononcer une communication intitulée « Peut-on sauver l'industrie française ?»